enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous avions eu la dernière fois, donc c'est le deuxième message. Il s'agit donc du règne de Dieu dans la vie du croyant. Nous sommes à la deuxième partie et cette partie s'intitule « Entrer dans le règne du roi ». Entrer dans le règne du roi. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant et dire au Seigneur combien nous voulons entrer dans ton règne ? Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, Seigneur, pour cette conférence et pour ton serviteur, Seigneur mon Dieu, qui m'a précédé et qui a apporté ce message puissant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu veux nous donner encore, Seigneur mon Dieu, la connaissance pour que nous puissions entrer dans ce règne. Éternel, guide-nous, que ton esprit nous conduise, que, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, véritable, puisse jaillir, Seigneur, du haut de ton trône. Et venir illuminer notre chemin. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour chacun ici présent, pour les grâces que tu as à manifester dans leur vie et pour l'amour que tu as pour eux. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Le règne de Dieu dans la vie du croyant, entrer dans le règne de Dieu. Qui était donc à la session que nous avions eue la fois passée, avec donc moi-même, pour la première partie sur le règne de Dieu dans la vie du croyant, l'étoffe des rois. Qui était là? D'accord. Très bien. Donc, nous allons faire un simple rappel, rapide, pour que vous puissiez quand même savoir de quoi nous avions parlé pour ceux, surtout, qui n'étaient pas là. Premièrement, nous avions donné la définition du règne de Dieu dans la vie du croyant. Le règne de Dieu, c'est l'étape ultime de la vie du croyant, où la puissance de Dieu est établie dans sa vie, donc, par le moyen de la foi. Et nous avions pris un verset important dans Jean, dans l'évangile de Jean, au verset, chapitre 1, au verset 12, qui nous dit que à ceux qui ont cru, qui ont reçu la lumière, qui ont cru, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et sachant que Dieu est celui qui règne, nous avions expliqué que notre vie ne dépend pas des circonstances. Notre vie ne dépend pas des temps. Notre vie ne dépend pas des situations que nous traversons, puisque nous sommes nés de la volonté de celui qui règne. Nous avons été faits à l'image de celui qui règne. Et donc notre vie dépend de celui qui règne, notre vie n'a pas de fondement charnel, mais à la base elle a un fondement de celui qui règne. Et c'est ce règne de Dieu, de celui qui décide, de celui qui a le pouvoir de décider, d'exercer des jugements, c'est ce règne que Dieu veut établir dans la vie du croyant pour qu'il puisse ne plus être dans une position d'esclave, mais dans une position de liberté comme celui qui règne, une position de roi. Nous avions expliqué que lorsque nous disons le règne de Dieu dans la vie du croyant, c'est que le croyant lui-même doit devenir un roi, tout simplement. Et que ceux qui règnent, ce sont des rois. Et nous avions expliqué que ceux qui faisaient justement la qualité d'un roi, c'est qu'il avait le pouvoir, qu'il avait l'autorité, qu'il avait la puissance d'exercer tout ce qu'il conçoit. Il n'était pas soumis aux circonstances comme l'esclave, mais il est en position de domination. Et nous avions expliqué que c'est cette position-là que Dieu veut nous donner et qu'il nous a conféré dans un verset très important de la Bible, quand il nous dit dans Luc 10, verset 18, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce qui signifie que, au travers de cette parole, le Seigneur a délégué le pouvoir, il a délégué la puissance à ses disciples, aux croyants, pour qu'ils puissent rentrer dans le règne de Dieu et qu'eux aussi puissent dominer, régner sur les temps, régner sur les circonstances et qu'eux aussi, en tant que roi, puissent dire que rien ne peut leur nuire. Et nous avions expliqué que cette puissance que Dieu confère aux croyants, c'est le sceptre de la royauté. C'est le sceptre de notre royauté. C'est cette puissance que Dieu nous a donnée. Un roi qui n'exerce pas l'autorité qu'il a n'est pas roi. Un roi qui n'exerce pas l'autorité qu'il a n'est qu'un roi en titre, mais il n'est pas un roi en exercice. Et vous-même, vous savez qu'il y a dans des pays des rois qu'on appelle des rois, des rois pour honorer les chrysanthèmes, comme on dit. C'est-à-dire que ces rois ne font pas la différence dans le pays. Et nous savons que plutôt, à côté du roi, il y a un premier ministre et qui tient le gouvernement. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Dieu veut que nous soyons des rois qui exercent leur autorité, qui exercent le règne et la domination, qui marchent dans la position de l'autorité qui leur a été confiée. Parce que la volonté de Dieu, puisque nous sommes issus de sa volonté, c'est que nous puissions exercer cette royauté et cette domination qui nous est dit dans Jérémie 29 au verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, un projet où les circonstances ne sont pas en train de nous balloter de droite à gauche, mais au contraire, une autorité et une domination qui nous permet de marcher selon le plan de bénédiction, le plan d'épanouissement que Dieu a prévu pour nous. Ce règne doit s'établir dans la vie du croyant parce que le croyant ne s'appartient pas à lui-même. Nous avions vu qu'il avait été racheté. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur. Et donc, nous appartenons au roi. Et toute la volonté du roi, pour nous, c'est que nous soyons nous aussi rois. Il dit, dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils. » Et je m'arrête là. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons les représentants de son autorité sur cette terre. Ce règne doit s'exercer au travers de nous. Le règne de Dieu doit s'exercer au travers de nous. C'est ainsi que Dieu l'a décidé. Et nous avons vu dans Apocalypse, au chapitre 5, versets 9 à 10, que ce règne doit prouver l'exercice de la royauté de Dieu sur terre parce qu'il nous est dit que tous ceux qui, de toute langue, de toute tribu qui ont été choisis, qui ont cru en Jésus-Christ, régneront sur la terre. Et donc, il n'est pas dit que nous régnerons dans le ciel, mais ils régneront sur la terre. C'est là que Dieu veut que nous puissions exercer notre autorité. Et nous avions donné trois points importants. Cette puissance qui est le sceptre du croyant, roi, doit être exercée par ceux qui ont l'étoffe des rois. Et ceux qui ont l'étoffe des rois, ce sont ceux qui sont violents, ce sont ceux qui sont volontaires et ceux qui sont vrais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, rappelez-vous de ces paroles. Nous avions aussi dit qu'il faut être de bonne volonté et actif. Nous devons renoncer à l'attitude du mauvais serviteur qui cache le don, c'est-à-dire la puissance qu'il a reçue. Au contraire, nous devons faire fructifier les dons que nous avons reçus du Seigneur, parce que ce sont ces dons-là qui sont en fait le dépôt du roi en nous, qui peuvent manifester la royauté du Seigneur. Et nous avions expliqué qu'il ne faut pas limiter. Lorsque nous parlons souvent des dons spirituels dans l'Église, nous pensons aux 9 dons qui sont écrits dans 1 Corinthiens 12. Mais Dieu est beaucoup plus divers que cela. Et nous devons vraiment prendre conscience de cet aspect-là pour comprendre que les dons que Dieu nous a donnés, ce sont des dons qui nous permettent de gérer, d'administrer, d'avoir la puissance financière, d'avoir la puissance spirituelle, d'avoir la puissance artistique, d'avoir la puissance d'organisation. Tout cela, ce sont des dons. Tout cela, ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Et nous devons savoir les exprimer parce que c'est au travers de cela que nous allons établir le règne de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rentrer dans une phase beaucoup plus pratique. C'est-à-dire comprendre comment effectivement ce règne va venir sur nous. Et pour cela, nous allons commencer donc dans Genèse au chapitre 1 et au verset 3 pour parler du processus de la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Je le répète comme nous l'avions dit la dernière fois, le règne de Dieu s'exprime au travers de nous par la manifestation de la puissance de Dieu. Prenons Genèse 1 au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette parole? La première phrase nous dit « Dieu dit ». Une entité spirituelle, d'accord? Dieu, une entité spirituelle, dit. Que la lumière soit. La parole est dégagée, elle est manifestée. Et, miracle merveilleux de Dieu, une réalité physique s'installe, la lumière apparaît. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion entre le monde spirituel et le monde naturel. Le monde invisible et le monde visible. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Regardons plus haut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, entité spirituel. Est-ce que vous pouvez voir l'Esprit de Dieu? Dites-moi. Entité spirituelle, invisible. Se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, entité physique, que l'on peut voir. D'accord? Visible. Que s'est-il passé? L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et il s'est passé quelque chose. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il y a eu un transfert du monde spirituel au monde naturel, du monde invisible au monde visible. Une puissance s'est dégagée du monde invisible et a généré une réalité dans le monde naturel. Voici, en quelques mots, la puissance de Dieu qui se manifeste dans le monde naturel, c'est-à-dire sur terre. Et Dieu dit à nous, croyants, régner sur la terre, dominer sur la terre. Ça veut dire ayez la capacité de transformer le naturel, de transformer les temps et les circonstances. Comment nous allons faire cela? Le secret, c'est qu'il y a eu un point de contact. Ce jour-là, il y a eu un point de contact entre le monde invisible et le monde visible. Il y a eu une connexion entre le monde invisible et le monde visible, ce qui a produit une différence, ce qui a accompli le changement, la transformation et effectivement le règne de Dieu. Et cette connexion que tout le monde désire, que tout le monde attend, n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. L'onction, ce mot onction, signifie frottement. C'est le frottement. C'est le frottement régulier. En fait, c'est le frottement entre l'entité spirituelle et l'entité naturelle. Entre les deux, il y a un contact. Cela produit une chaleur. Faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Allez-y, frottez, frottez, frottez. Vous ne sentez pas qu'il y a une chaleur qui se produit? Il y a une chaleur, il y a un feu, il y a un feu. Frottez, frottez, frottez. Il y a un feu, c'est le frottement, c'est le feu, c'est ça l'onction. Et cette onction a la capacité de transférer, ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance. Ça peut être le miracle, la multiplication des pains. Ça peut être le partage des eaux, ce frottement est essentiel pour la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Essentiel. Si ce frottement n'avait pas eu lieu, rien ne se serait passé. C'est pourquoi ce verset est important. Il nous est dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il faut que l'Esprit se meue. Il le faut. Si l'Esprit ne se meut pas, le mouvement ne peut pas se faire. Si l'Esprit ne se meut pas, à ce moment-là, la parole qui est déclarée ne peut pas accomplir. Parce que l'Esprit de Dieu est l'exécuteur puissant de la parole du Seigneur. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous, en tant que croyants, nous avons un seul défi. Si nous voulons régner sur terre par la puissance de Dieu, parce que nous ne pouvons pas régner sur terre du règne de Dieu si ce n'est pas par la puissance de Dieu. D'accord? Donc si nous voulons régner sur terre, nous avons besoin de... Dites-le plus fort. Nous avons besoin de... l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui a la capacité d'accomplir cette onction. Ce frottement régulier de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ce frottement régulier de la présence du Saint-Esprit dans votre vie et le point de contact entre le royaume des cieux et la terre, le point de contact. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du... Ça veut dire que le Saint-Esprit va habiter en nous. Il va donc demeurer en nous. On est d'accord? Mais lorsque vous demeurez quelque part, vous ne êtes pas en train de vous frotter quelque part. Si vous demeurez dans une maison, vous allez vous frotter sur les chaises, vous frotter sur le lit, vous frotter sur... N'est-ce pas? Il y a un frottement qui va se produire. Et cela va produire quelque chose en vous. Est-ce que vous n'avez jamais senti le frottement du Saint-Esprit au-dedans de vous? Vous le sentez par des frissons. Vous le sentez par une chaleur. Vous le sentez, des fois vous ne comprenez pas, mais un frisson se produit en dedans de vous. C'est le frottement. C'est le frottement. Et Paul était en train de parler à Timothée en lui disant, ne néglige pas le don que tu as reçu. Le don que tu as reçu, ne le néglige pas. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est lui qui va faire de toi un dépositaire de la royauté de Dieu. C'est par lui. Le Seigneur nous dit dans Jean 15, 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair. C'est clair. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est très intéressant de constater que lorsque le Seigneur a dit ça, ce sont tous les passages de Jean 15 jusqu'à Jean 16 où le Seigneur parle du Saint-Esprit. Où le Seigneur parle encore et encore du Saint-Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons commencer à faire avec ce frottement. Nous allons commencer à faire avec ce frottement qui est là au-dedans de nous. Il est là au-dedans de nous. Mais il a besoin de se déployer. Il a besoin de prendre toute la place. Il a besoin que tu diminues et que lui grandisse. Il a besoin que tu apprennes à l'écouter. Que tu apprennes à savoir comment il fonctionne, à pouvoir le gérer dans ta vie. Parce qu'il est là, mais tu ne sais pas le gérer. Tu ne sais pas le gérer. Donc tu n'arrives pas à fonctionner avec lui. Alléluia. C'est la réalité. Régner. Dieu veut nous faire régner, oui. Mais par la connaissance. Tu peux être roi et puis tu ne sais pas que tu es roi, tu ne peux pas régner. Ou peut-être que tu peux être roi, mais tu ne connais pas tous les éléments du pouvoir qui t'est conféré. Et donc, tu peux n'utiliser que une ou deux lois parce que tu ne connais pas tous les éléments du pouvoir qui t'ont été donnés. N'est-ce pas? Eh oui. Mais là, Dieu veut nous donner la connaissance et Dieu veut nous faire savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous devons maintenant commencer à travailler avec lui et de manière sérieuse, à comprendre quel est le fonctionnement de cette onction dans notre vie, quel est le fonctionnement de ce sceptre de l'autorité qu'il nous a donné. Premièrement, pour que le Saint-Esprit puisse travailler, nous devons être remplis de lui. C'est pour ça que Paul disait toujours, soyez remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes, tenez, on va prendre l'exemple de ce verre. Est-ce que ce verre est rempli? Voilà. Donc, ce qui se passe ne peut concerner que l'intérieur du verre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que l'eau qui est dedans ne concerne que le verre. Ma main qui est là ne sent pas l'eau. Ma main est à l'extérieur du verre et elle ne sent pas l'eau. Ce que je sens, c'est quoi? C'est le vase. Je sens quoi? Le vase. Ce que je perçois, c'est le verre. Je ne perçois pas l'eau. Je ne peux pas ressentir la douceur ou le liquide. Je ne peux pas ressentir si c'est une eau calcaire ou une eau dure ou quoi. Je ne peux pas le savoir. Tout ce que je sens, c'est le verre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas régner sur la terre. Parce que l'eau est à l'intérieur, elle ne déborde pas. Et donc elle n'affecte personne. Elle ne transforme pas la vie des autres. Lorsque les autres vont regarder un vase, même s'il est à 99%, ils ne vont sentir que le verre. Ça veut dire que c'est toi qu'ils vont voir. Ils ne verront pas Dieu. C'est toi. Ils ne verront pas Dieu au travers de toi. Donc le verre doit être rempli. Rempli. Et quand nous disons rempli, eh bien tu vas déborder parce que tu es rempli. Et lorsque tu débordes, ça commence à inonder partout. Ça commence à inonder partout. Et le Seigneur dit, vous deviendrez une source jaillissante qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, tu dois jaillir et imaginer une source à l'intérieur et ça déborde. Ça déborde constamment, constamment. Donc, tout autour, on est affecté. Si tu viens toucher le verre, eh bien, c'est l'eau que tu touches. C'est pas le verre, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau, alléluia. Donc, tu es au contact de l'esprit et quelque chose se passe dans la vie de la personne. Quelque chose se passe. Merci, Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu dit, soyez remplis. Et là est le défi. Comment allons-nous être remplis du Saint-Esprit? Ah, il y a beaucoup de choses en nous. Lorsque nous regardons ce vase, c'est très simple. Nous voyons un vase. Mais dans la réalité de nos vies, ce n'est pas comme ça. Déjà, en tant qu'être humain, nous sommes en trois dimensions, vous le savez. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes esprit, âme et corps. Donc nous avons trois dimensions. Et ces trois dimensions n'ont pas toujours été dans la gloire de Dieu. Mais au contraire, dès le matin, quelles sont les pensées qui animent l'âme? Dès le matin, quelles sont les choses que tes yeux voient dès le matin? Quelle est la position de ton esprit? Et là est le défi. Être rempli du Saint-Esprit signifie que les trois dimensions doivent être dans la plénitude de la présence de Dieu. Les trois. Donc ce n'est pas à dire que ton âme se réjouit dans le Seigneur, mais l'esprit est allongé, fatigué, ne prie pas, ne cherche pas Dieu. Parce que l'esprit, voyez-vous, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Donc tu ne peux pas chercher Dieu par la chair. Tu ne peux pas trouver Dieu, tu ne peux pas être en contact avec Dieu par la chair. Mais ton esprit doit être positionné en contact avec Dieu. Quelle est la position de ton esprit dès le matin? Quelle est la position de ton esprit dès le matin? Certains ne savent même pas qu'ils ont une vie de l'esprit. Quand tu te lèves, est-ce que tu as rêvé, tu n'as pas rêvé, ce n'est pas ton problème. Mais la vie de l'esprit, elle est une réalité. Je dis de l'esprit, petit e, l'esprit de l'homme. Lorsque tu dors, tu vois pourtant que tu peux être dans un songe et dans ce songe, tu te retrouves, je ne sais pas, peut-être dans une église ou peut-être quelque part chez tes parents, alors que pourtant tu es bien dans ton lit. Pourquoi? Parce que tu as un esprit et cet esprit a une vie. Et c'est ton esprit qui peut te permettre d'être en communication avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'esprit est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Amen. Donc nous devons réaliser cela. Nous devons comprendre cela. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Et les trois doivent être dans la plénitude de la dimension du Saint-Esprit. Mais cela ne se fait pas comme cela. Nous ne pouvons pas, en un claquement de doigts, dire que nous sommes remplis de l'Esprit. Non. C'est pour ça que Paul dit, par toutes sortes de cantiques, d'hymnes, de prières, de veillées, de jeûnes, entretenez l'Esprit, le Saint-Esprit, entretenez-le. Refaites ça avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Continuez, encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe encore plus. Et si vous allez continuer, quelque chose va se produire en vous parce que vous allez sentir que là, c'est trop chaud. Vous voyez? Il faut continuer. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête. Lorsque nous avons commencé à prier en langue, nous nous disons, ça suffit. J'ai fait une veillée de prière aujourd'hui, donc pour ce mois-ci, c'est réglé. J'ai jeûné aujourd'hui, donc ça s'arrête là. Non, c'est une vie. Alléluia. C'est une vie. Soyez remplis. Rempli, ça doit déborder et déborder. Ça doit être un grand fleuve. Un grand fleuve. Et beaucoup doivent pouvoir y trouver une réponse. Soyez remplis. Et j'aimerais vous dire que notre vie a tellement été imbriqué dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne serait-ce que par la philosophie que nous apprenons à l'école. Ne serait-ce que par des raisonnements que même nos familles, des habitudes que nos familles nous ont transmises. Des traditions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. Des choses que nous faisons tout simplement sans savoir pourquoi nous les faisons, mais qui sont le produit d'envoûtement, qui viennent de génération et qui se manifestent de génération en génération. Et on réagit comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses. Il y en a des choses. Lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, on s'est permis d'aller ouvrir des livres qu'il ne faut pas ouvrir, d'aller toucher à des choses qu'il ne fallait pas toucher, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Nous nous sommes permis des choses qui sont abominables aux yeux du Seigneur. Dans notre vie sexuelle, des choses abominables. Et Dieu a vu tout ça. Il est venu. Il nous a donné son sang. Il nous a donné sa justice. Oui. Mais ta mentalité aussi doit changer. Israël, libéré de l'Égypte, arrivé dans le désert, n'était toujours pas délivrée de l'Égypte qui était en elle. Oui, l'Égypte était encore là, dans le cœur. Donc les concombres, on voulait encore les retrouver. Hein? Et au fond, pour beaucoup de croyants, ce n'est pas vraiment qu'ils sont rentrés dans une vie de sanctification. Ils ont pris une position telle que ils se sont mis dans une non-occasion de péché. Mais en réalité, s'ils étaient dans l'occasion, ils allaient tomber. Vous comprenez? Et beaucoup de pensées impures, beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui se passent au niveau de la pensée. Il faut sanctifier tout cela. C'est pourquoi le jeûne est indispensable. Et moi, je ne soutiens pas du tout les enseignements qui peuvent être portés à l'Église disant que le jeûne n'est pas nécessaire, que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli, oui. Mais lorsqu'il nous dit qu'il a tout accompli, c'est à nous de rentrer dans son accomplissement. Eh oui! Lorsque le Seigneur dit, je vous donne ma grâce, je vous donne mon pardon, si tu ne t'agenouilles pas pour demander, Seigneur, pardonne-moi, tu ne seras pas pardonné. Eh bien, attends. Alléluia! Donc, nous devons rentrer dans ces choses. Mais pour rentrer, le Seigneur a dit, prenons ensemble Luc 5. Luc 5. Le Seigneur a dit. Un jour, mon mari, le pasteur David, est allé dans une église et le pasteur était en train de prêcher. Et le pasteur dit, moi je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il faut jeûner. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ça. Et en plus, je ne comprends même pas pourquoi Jésus a jeûné lui-même. Et c'est ça qu'il enseigne le dimanche matin à l'église. Regardez ce qui est écrit dans Luc 5 à partir du verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des... » Répète ça avec moi. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des... » Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ces jours-là. » Dis-moi, on va s'arrêter là juste pour ce... Juste là maintenant. Je veux vous poser une question. Dites-moi, est-ce que Jésus vous a appelé à la repentance, oui ou non? Oui? Vous avez été appelé à la repentance. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Est-ce que vous étiez juste? Vous étiez comment? Quand le Seigneur vous a appelé à la repentance, vous étiez comment? Quand vous êtes venu dans la repentance, vous étiez comment? Comment? Ah là, la réponse commence à être difficile. Là. Est-ce qu'on était pécheur ou est-ce qu'on était juste? Est-ce qu'on était pécheur? Ah ben oui. Oui, justifié par le sang de Jésus. Tu l'as bien dit, ma sœur. Justifié par le sang de Jésus. Ça qui veut dire que même lorsque tu vas marcher, tu es encore pécheur, mais tu as toujours besoin du sang de Jésus parce que là, tu as besoin du sang. Et le Saint-Esprit est saint. Il est Saint. Alléluia. Et nous voulons la puissance. Nous voulons exercer la royauté. Nous voulons exercer la souveraineté. Donc, le sang de Jésus est là. Mais Jésus a mis l'accent sur la sanctification. La sanctification. Lorsque l'époux leur sera enlevé, en ces jours-là, ils jeûneront. Pourquoi? Regardons verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Voici la réalité. C'est que lorsque tu viens au Seigneur et que le sang de Jésus vient sur toi, tu es malheureusement toujours une vieille outre. Même si le sang de Jésus vient sur toi, tu es une vieille outre. Parce que le sang de Jésus a la capacité de te purifier de tous tes péchés, mais pas de te sanctifier. Ce qui veut dire que le sang de Jésus te purifie, mais ta mentalité n'a pas changé. Les habitudes du péché sont toujours là. Lorsqu'on va appuyer là, tu vas crier. Parce que c'est là qu'on te provoque un peu, la colère va sortir. C'est la réalité. Et il nous est dit, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Personne. Donc ce n'est pas Dieu qui va le faire. Son habit neuf, son esprit dans nos vies. Mais il ne le mettra pas sur un vieil habit parce que cela va déchirer, ça n'est pas assorti et ça, il y aura une déchirure. De même, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Ce qui signifie que ce n'est pas dans l'intérêt du Seigneur de mettre son esprit en toi si tu n'as pas changé de mentalité, tu n'as pas pris la mentalité du royaume. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va mettre son esprit au-dedans de toi, je veux dire sa puissance, son onction, quelque chose va se produire. Il y aura une rupture au-dedans de toi. Tu ne pourras pas tenir la gloire de Dieu. Et puisque tu ne pourras pas tenir, eh bien tu vas discréditer l'évangile du Seigneur. C'est-à-dire que tu auras peut-être les dons du Saint-Esprit, mais tu marcheras n'importe comment. Tu marcheras n'importe comment. Donc on va te regarder, tu vas peut-être prophétiser, tu vas peut-être danser, tu vas peut-être louer, tu vas peut-être chanter, mais lorsque tu vas parler à quelqu'un, on dira « Hein, ça c'est un chrétien ?» Donc, ce que le Seigneur dit, c'est qu'il faut jeûner. Au verset 39, il dit, malheureusement, ce qui se passe, c'est que personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Le vin nouveau que Dieu veut nous donner, mais on préfère être dans nos mentalités. C'est plus facile de rester dans notre vieille mentalité plutôt que de rechercher pleinement cette plénitude de l'esprit que Dieu veut nous donner. Eh oui, le vin vieux est meilleur. N'est-ce pas? Mais pour nous qui sommes ici, qui avons choisi la bonne part, qui désirons véritablement manifester le royaume de Dieu, eh bien pour nous, le vin vieux n'est pas meilleur. C'est le vin nouveau que nous voulons. C'est le vin nouveau. Alors nous allons être prêts à nous sommes prêts à rentrer dans ce que le Seigneur nous dit. Quand il dit que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Ils vont commencer à s'humilier devant Dieu pour briser la carcasse du vieil homme, la briser et laisser maintenant que l'Esprit vienne faire de toi une nouvelle outre, prête à recevoir la gloire de la puissance du Saint-Esprit qui manifeste la royauté divine sur cette terre. Oui. Le jeûne est indispensable. Parce que dans le jeûne, quelque chose se passe. Lorsque tu commences à jeûner et que tu rentres dans une dimension de jeûne de plus en plus étendue, il y a des barrières qui tombent dans ta pensée même. Lorsque tu vois que tu arrives à jeûner 7 jours, 10 jours, tu commences à te rendre compte que non, la puissance de Dieu est une réalité. Et tu vois maintenant que les écailles de l'incrédulité tombent en toi. Et que tu rentres dans une dimension de foi beaucoup plus grande. Parce que maintenant tu es rentré dans une vie par l'esprit. Ton esprit est debout. Ton corps ne s'appuie plus sur la chair pour vivre. Tu réalises que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu vas te lever tout en étant dans ton jeûne, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 9 jours, 10 jours, tu vas réaliser que ça ne peut être que par la puissance de Dieu. Tu vas le réaliser. Et tu vas réaliser que tu es maintenant en connexion avec le royaume des cieux. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il y a eu trop d'implications de l'ennemi dans les 3 dimensions que nous sommes. trop d'implications, trop d'alliances tacites, non déclarées, mais pourtant acceptées. Trop d'alliances avec l'ennemi, trop de compromis avec lui. Trop. Et donc, il faut faire un détachement. Et pour l'accomplir, il faut s'humilier et commencer à briser l'appui. L'appui du péché qui est la chair. C'est l'appui du péché. Souvenez-vous de la parole que le Seigneur avait dit dans Genèse, au chapitre 3, je crois. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit au serpent ? Qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Voilà, verset 14. Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi ? De la poussière tous les jours de ta vie. » De quelle poussière il s'agit ? Est-ce que tu crois que c'est le sable qui est sur la terre que Satan mange ? Quelle poussière ? C'est toi ! Les œuvres de la chair ! C'est ça la poussière, tu es poussière. Tu es poussière. Et c'est ça qu'il mange, c'est de ça qu'il se nourrit. C'est de ça qu'il se nourrit. Il s'attache à ça. Oui. Alors, comment tu vas commencer à faire que ton corps ne soit pas poussière, mais que ton corps soit puissance de Dieu, que tes membres soient membres pour la justice? Tu vas commencer à humilier la chair dans le jeûne. L'appui du péché va tomber. C'est-à-dire que là où le péché se confortait sur les convoitises de la chair, cela va tomber. Lorsque tu vis dans la vie de tous les jours, ton corps te dit « j'ai soif ». Alors tu bois. Même si dans ta volonté, tu ne veux pas boire, mais si ton corps te dit « j'ai soif », tu vas boire. Donc, qu'est-ce qui dirige ? Le corps ou l'esprit ? Vous voyez ? Et donc, dans le jeûne, ce qui se passe, c'est que nous prenons un temps spécial pour affirmer notre volonté. Nous prenons un temps pour pouvoir mettre debout notre esprit. Et nous n'allons pas marcher par notre corps, mais nous allons marcher par notre esprit qui va se positionner pour être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et pour dire, Esprit de Dieu, c'est toi que je veux. Ma chair ne doit pas me commander. Mais maintenant, c'est toi. Je me soumets à l'Esprit. Et c'est ainsi que l'Esprit va commencer à prendre plaisir en toi. Et il va venir reposer. Il va venir reposer. Parce que à ce moment-là, tu as sujetti la chair. Tu l'as sujetti. Tu l'as sujetti. Et ce qui va se produire, c'est qu'au-dedans de toi, ta volonté va commencer à s'affirmer pour le royaume de Dieu. Tu vas pouvoir dire non à Satan et à ses convoitises. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il a été tenté sur trois domaines essentiels. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont aussi ces trois portes que Satan utilise tous les jours pour pouvoir amoindrir la puissance des rois que nous sommes. Par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais ce qui va faire que nous allons dominer sur lui, c'est que nous allons apprendre comme un entraînement dans le jeûne à positionner notre esprit pour dire non à Satan. Je vois que mon frigo est plein aujourd'hui, mais je ne mange pas. Mes yeux ne m'entraînent pas à faire ce que moi, je ne veux pas faire. Ce que j'ai décidé de ne pas faire pour la gloire de mon Dieu. je m'entraîne. Je sens que mes boyaux se tordent. Ma chair a faim. Mais non, je ne mange pas. Parce que mon esprit a décidé. Je dis non à Satan. Comprenez? Je jeûne. Donc c'est un jour où je m'humilie. Je m'humilie volontairement. Donc je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne peux pas. Et mon esprit apprend à prendre la bonne position. Et dans cette position-là, vous commencez à devenir une autre neuve. Vous commencez à devenir une autre neuve, renouvelée. Et là, l'esprit commence à reposer. Et le frottement, vous allez le sentir. Et vous allez commencer à sentir ce frottement, cette onction dont nous avons parlé dans votre corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il va pouvoir reposer d'une manière physique. Parce que ce qui lui importe, c'est de pouvoir transformer les choses dans ce monde naturel. Lorsque nous imposons la main à un malade, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un transfert, il y a une transformation qui se produit dans le corps de la personne. Imaginez par exemple quelqu'un qui est malade d'un cancer par exemple et qui a des métastases dans le corps, mais que nous prions pour que le miracle se produise, il faut qu'il y ait cette onction justement qui va ôter les métastases et qui va les faire disparaître en un instant. Qui va arriver à pénétrer du monde invisible comme je vous le disais, rentrer dans le monde visible pour transformer la réalité visible et invisible. Mais pour cela, il a besoin de dépositaires, il a besoin de vases, il a besoin d'outres. L'onction ne se dépose pas par terre. L'onction doit reposer en toi. C'est là ta couronne. C'est là ta royauté. C'est là ta royauté. Pour que rien ne puisse te nuire. Pour que tu aies la domination sur les éléments, sur les circonstances, sur les temps. C'est là ta royauté. Et donc, il te faut cette onction. Il te faut cette vie intense de l'Esprit de Dieu, manifestée dans ton corps. Et il te faut accepter de renoncer à certaines choses. Et je vais pas être trop long, mais je vais terminer par un passage important. Qui se trouve dans Samuel. Ah. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Le passage que nous allons prendre se trouve dans le verset 22 du chapitre 15. Samuel, le prophète, vient vers Saül après avoir vu qu'il avait désobéi. Et lui dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Cette parole est forte pour nous ce matin. C'est une parole où le Seigneur veut nous avertir. que nous avons reçu la royauté. Tout comme Saül avait reçu la royauté. Parce que Dieu avait fait confiance à Saül. Lorsqu'il avait regardé Saül, il avait vu un homme qui se voyait petit à ses propres yeux. Alors il s'est dit, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance. Israël a demandé un roi, très bien, je vais leur donner. Mais je suis un Dieu bon. Je suis leur Dieu bon. Donc je ne peux que leur donner un bon roi. Qui va vraiment faire ma parole, accomplir mes paroles pour que mon peuple soit toujours dans la puissance, dans la domination, dans l'autorité. Et qu'il ne soit pas envahi par ses ennemis. Mais voici, Saül, arrivé dans l'exercice du pouvoir, a commencé à rejeter la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, Église du Seigneur, nous les croyants, nous avons aussi eu accès à la royauté divine. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ? Est-ce que nous aussi, nous rejetons les paroles du Seigneur, paroles essentielles pour que nous puissions exercer cette autorité sur la terre ? Pourquoi sommes-nous rentrés dans la paresse spirituelle en croyant que les choses de Dieu sont faciles ? Pourquoi ne voulons-nous plus rentrer dans les paroles que Dieu nous a dites ? Pourquoi devons-nous nous trouver dans une situation, et particulièrement ici dans ce pays, où les croyants sont, mais sont loin derrière ? Pourquoi ? Parce que l'on a rejeté la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui dit, en mon nom, ce qui veut dire que je vous ai donné la délégation de mon pouvoir. Je vous ai fait roi avec moi. Utilisez donc mon nom, rentrez dans ma puissance. Nous avons rejeté la parole du Seigneur qui dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, en ces jours-là, ils jeûneront. Et nous nous sommes confiés en disant que Dieu connaît toutes choses. La chair a ses faiblesses. C'est quand je suis faible que Dieu me rend fort. Ce n'est pas ce genre de faiblesse-là que Dieu veut. Ce n'est pas ce genre de faiblesse-là. Nous avons commencé à devenir des paresseux sur le plan spirituel. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas veiller avec moi une heure. Non, nous ne pouvons pas. Je suis pressé. Je suis fatigué. Dieu ne répond pas. C'est évident qu'il ne répond pas puisque tu ne pries pas. Ou bien, ça doit changer. Que nous ne nous retrouvions pas dans la position de Saül qui s'entend dire que je te rejette. L'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Que le Seigneur ne puisse plus nous dire ça. Que le Seigneur ne puisse pas nous dire cela. Mais qu'au contraire, nous puissions rentrer dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Par la persévérance à bien faire. L'Esprit de Dieu est loyal avec ceux qui sont loyaux avec lui. Si nous nous mettons à faire ce qu'il nous a dit, nous verrons combien cette puissance va reposer sur nous et que Dieu n'est pas menteur. Et nous manifesterons la puissance de Dieu, que nous soyons en France, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en Afrique ou en Asie. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu, peut-être, je ne sais pas, des Américains ou des Africains. Notre Dieu est aussi le Dieu des Français. Mais pourvu que les Français réalisent qu'ils ont un Dieu. Et les Français, c'est toi. Même si tu es d'une autre nation, mais tu vis dans ce pays, c'est à toi que je m'adresse maintenant pour te dire que la royauté de Dieu est sur toi. Et que tu dois te lever afin que tu sois roi sur ce pays. Et que tu commences à poser des décrets dans ce pays qui vont renverser les situations. Dieu attend que tu poses des décrets. Quel que soit le pays d'où tu viens aujourd'hui, Dieu attend que tu poses des décrets pour renverser la situation. Et nous ne pouvons le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais prendre quelques minutes pour des questions avant que nous puissions passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Notre propre voix. Oui. C'est vrai et c'est normal. Parce que lorsque tu as un nouvel ami qui commence à t'appeler au téléphone, tu ne reconnais pas tout de suite sa voix. D'accord? Lorsque tu as quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de, avec qui tu n'as pas l'habitude d'être en contact et qu'il t'appelle ou qu'elle t'appelle, tu ne reconnais pas sa voix. Tu dis, c'est qui? Tu vois? Et des fois, tu peux te tromper même. D'accord? Tu peux dire, oh, c'est Martine. On te dit, non, 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 c'est Angèle. D'accord? Parce que tu n'as pas l'habitude de sa voix. Mais c'est par le fait de demeurer dans sa présence, justement par la prière, par la consécration, que ton oreille va commencer à s'ouvrir. Et tu vas commencer à discerner la voix du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, pour pouvoir consacrer les sacrificateurs, ce qu'il se passait, c'est qu'il y avait tout un rite où on posait du sang et de l'huile sur le lobe de l'oreille du sacrificateur. C'est ça, Rabbi? Voilà. On posait du sang et de l'huile. C'était un rite pour pouvoir leur permettre d'exercer la sacrificature. Eh bien, c'est pareil pour nous. Pour nous, spirituellement, il va falloir passer par un rite spirituel par lequel le sang de Jésus va être appliqué sur le lobe de notre oreille ainsi que l'huile de l'onction pour que nous puissions avoir nos oreilles circoncises à la voix de l'Éternel et que nous puissions discerner sa voix. Oui. Mais cependant, j'aimerais préciser ceci. C'est qu'il nous est dit dans Job 33, à partir du verset 14, que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'on n'y prend pas garde. Eh oui, il parle lorsque les hommes sont endormis dans un profond sommeil. Il scelle des révélations sur leur couche, afin d'être préservés de l'orgueil et des pièges du méchant. Oui, le Seigneur nous parle. Il peut nous parler de diverses manières, pourvu que tu sois à l'écoute. Il faut être attentif. Il faut être attentif et il faut commencer à prier le Seigneur pour que ton esprit soit fixé sur lui. Souvent, nous avons un esprit qui se balade dans tous les sens. Nous ne maîtrisons rien. Notre esprit part dans tous les sens. Non, il faut que ton esprit soit sur l'Éternel. C'est ce qu'il nous a dit. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas les yeux physiques parce que Jésus, tu ne le vois pas. Mais c'est les yeux de ton esprit. Ton esprit doit être fixé sur Jésus. Que ce soit que tu te lèves et que tu vas à ton travail, ton esprit est fixé sur Jésus. Que ce soit lorsque tu parles à quelqu'un, ton esprit doit être fixé sur Jésus. Toujours. Tu dois contrôler ton esprit. Tu dois contrôler ton esprit pour le fixer sur Jésus. Parce que tu as une volonté. Et c'est par cette volonté. Dieu nous a donné la volonté, justement. En tant qu'être humain, c'est ce que nous avons. Nous avons la volonté. Donc, cette volonté nous permet de diriger notre esprit vers Dieu. Et nous devons, justement, récupérer notre volonté. Parce que souvent, notre volonté a été soumise sous des esprits d'assoupissement, des esprits de mort, pour pouvoir nous retrouver dans la distraction, tout au long d'une journée, par exemple. D'accord? Voilà. Donc Dieu nous parle. Et Dieu va nous parler, mais si nous sommes attentifs. Et tu pourras mieux entendre la voix du Seigneur par cette application. Et lorsque tu dormiras, même si tu ne comprends pas les songes que tu fais, tu vas prendre quand même le soin de faire comme Daniel, fidèle dans les petites choses. Tu vas commencer à noter les songes que tu fais. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de commencer à te révéler parce qu'il donne les songes et il donne l'interprétation des songes. Et tu vas demander à Dieu de commencer à te révéler ce qu'il veut te dire. D'accord? C'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que par rapport à notre esprit, l'esprit de l'homme, il vit continuellement.
Oui.
Et en fait, quand on dort, l'esprit continue à vivre.
Oui.
Et vous avez dit qu'il fallait qu'il y a certaines personnes, quand elles dorment, si la nuit, elles n'ont pas fait de songe, ça ne les interpelle pas. En fait, on doit demander à Dieu de sans cesse nous parler la nuit.
Non, ce n'est pas ça. Je
n'ai pas compris.
Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut que tu aies conscience de ton esprit. C'est ton esprit qui est en communication et en communion avec Dieu. D'accord? Donc, tu dois être conscient de ton esprit. Un esprit qui n'est pas éveillé, qui n'est pas vif, ne peut pas percevoir les réalités spirituelles. Or, l'esprit est la lampe de l'Éternel. Donc, ce n'est pas la lumière que tu reçois dans ton esprit que tu diriges tes pas jour après jour. Si, lorsque par exemple, tu dors, tu n'es pas conscient dans tes rêves même, des réalités spirituelles qui t'entourent. Tu ne sais même pas si tu rêves, parce que ton esprit pour toi, en fait, il peut être endormi, il peut être en fait comme anesthésié, tu vois. À ce moment-là, tu ne peux pas contrôler, tu vas être quelqu'un qui marche par tes sentiments. Tu vas marcher par ton âme, par tes émotions, mais tu ne vas pas marcher par la position de ton esprit, tu vois. Mais quelqu'un qui a un esprit qui est debout, qui est en connexion avec Dieu, lorsque tu vas te coucher tout de suite, l'esprit va te montrer que là, tu n'es pas dans une bonne position. Peut-être que là, tu n'es pas en connexion comme Dieu le voudrait. Peut-être que là, tu n'as pas assez prié parce que demain, il y a un danger qui va se produire. Il faut que tu sois prêt. Voilà. D'accord? C'est ça. Oui.
Et donc, tout ça, ça passe par le jeûne et la prière, donc.
C'est ça. C'est-à-dire que la vie de jeûne et de prière est une réalité. Lorsque nous regardons la vie des apôtres, ils avaient une vie de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, en tout cas, je sais qu'en France, l'Église ne rentre pas dans cette dimension-là. Nous sommes paresseux spirituellement. Nous sommes paresseux, nous ne veillons pas, nous ne prions pas, nous ne tournons pas sur la brèche. Et donc, du coup, nous vivons notre vie chrétienne comme si on est déjà au ciel, quoi. Et puis on se plaint en disant que « Mais Seigneur, tu ne fais rien ». Mais effectivement, comme je le répète, le jeûne n'est pas une pratique légaliste. Ce n'est pas jeûner pour jeûner comme une grève de la faim. Mais c'est vraiment s'humilier devant le Seigneur pour recevoir. Il faut que le jeûne ait un objectif, voyez. Et l'objectif du jeûne est exactement décrit dans Luc 5, à partir du verset 30, comme nous l'avons lu jusqu'au verset 39. C'est-à-dire que l'objectif du jeûne, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est de renouveler l'outre pour devenir vraiment des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, c'est une pratique qui nous permet d'élever en nous la dimension spirituelle de notre être. Oui.
À ce qui concerne les longs jeûnes, c'est-à-dire les jeûnes de 21 jours, est-ce qu'il est vrai qu'on doit être guidé par le Saint-Esprit?
Oui. Tout comme le Seigneur lui-même a été guidé lorsqu'il est revenu du Jourdain, il avait été baptisé, et il est revenu du Jourdain, la Bible nous dit que l'Esprit le conduisit au désert pour qu'il puisse jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. C'est l'Esprit qui l'a conduit. Nous ne pouvons même pas rentrer dans un jeûne. Pour certains, même 3 jours, tu ne pourras pas tenir si l'Esprit ne te conduit pas. Même 3 jours, tu ne pourras pas tenir. D'accord? Donc, c'est important d'être conduit par l'Esprit. Tu vas sentir comme une soif de Dieu tellement intense. Quelque chose va se passer. Peut-être tu vas te lever un matin, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, donne-moi une parole. Et la parole sur laquelle tu vas tomber, c'est une parole qui parle du jeûne. D'accord? Donc, le Seigneur va commencer à t'entraîner. Mais il ne demande pas comme cela à tout le monde de jeûner des jeûnes longs de 40 jours, 40 nuits, non. Ça, c'est vraiment très, très important de savoir que ce n'est pas tous les croyants qui sont appelés à jeûner comme cela. Souvent, ce sont des serviteurs de Dieu auxquels Dieu a mis quelque chose de particulier, un appel particulier sur leur vie. Donc, par exemple, le pasteur David Goma a jeûné 41 jours et 41 nuits parce que Dieu lui a demandé. Tu vois? Mais la directive était claire, précise, intense. D'accord? Et il a déjà fait ce jeûne deux fois. Donc c'est pour vous dire que pour pouvoir faire ces choses, ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire de soi-même. Ça, c'est clair. D'accord? C'est clair. Oui.
Oui, voilà, je voulais demander. Est-ce qu'il est bon de jeûner lorsque nous travaillons professionnellement? Est-ce que c'est une bonne disposition?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, nous pouvons jeûner lorsque nous travaillons, tant que ce sont des jeûnes qui sont courts et que cela, nous n'allons pas manifester une fatigue ou même tomber dans les pommes devant tout le monde parce qu'on est en train de jeûner. Ça, il faut être sage. Le jeûne est une pratique secrète. C'est entre nous et le Seigneur. D'accord? Donc, par rapport aux jeûnes, j'aimerais vous dire que j'ai sorti un livre que le Seigneur lui-même m'a demandé d'écrire qui s'appelle « Sur les traces de Jésus ». Comment jeûner efficacement. Et c'est vrai que dans ma propre vie, le Seigneur m'a enseigné par rapport au jeûne et m'a conduite dans le jeûne, ainsi que mon mari. Et par rapport à cette expérience que nous avons eue et aussi cette connaissance, le Seigneur m'a demandé d'écrire ce livre pour que son peuple puisse rentrer dans cette puissance. Donc, ce livre est à votre disposition. Je me tiendrai tout à l'heure là-bas pour le dédicacer. C'est important pour nous de rentrer dans cette dimension. Et toutes les questions pratiques du jeûne, les questions que vous posez, les questions qui reviennent régulièrement, comment est-ce qu'on doit jeûner, comment est-ce qu'on doit prier pendant le jeûne, quels sont les différents types de jeûnes qu'on doit faire, combien de temps est-ce qu'on doit jeûner, comment, dans quelles conditions, tout cela est écrit dans ce livre. Vous pouvez jeûner efficacement et voir vraiment des bouleversements dans votre vie par le jeûne, le véritable jeûne. Le véritable jeûne, pas une pratique légaliste où on se prive de nourriture, on fait une grève de la faim. Ça, il faut arrêter les histoires de grève de la faim. Dieu n'est pas dans ça. Voilà, oui. Yes. Yes. Yeah.
I hear everyone asking questions about fasting.
Vous êtes là en train de poser des questions sur
how
le
long to fast.
Combien de temps jeûner?
Why should we fast?
Pourquoi nous devrions jeûner?
If we should fast.
Est-ce qu'on doit jeûner?
But out of this teaching this morning,
mais après cet enseignement ce matin,
I hear the Lord speaking to you.
J'ai entendu le Seigneur vous parler.
Saying how much of me do you want?
Qui dit combien vous voulez de moi? À quel point vous voulez de moi?
What price are you willing to pay?
Quel prix êtes-vous prêt à payer?
To get what you want from me.
Pour obtenir ce que vous voulez de moi.
The discipline.
Pour vous discipliner.
Starts with you.
Cela commence avec vous.
There's a lot of things that has to be done.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Through you.
Au travers de vous.
As a vessel of God.
En tant que vase de Dieu.
So God is saying to you.
Donc Dieu est en train de vous dire.
I am calling you.
Je t'appelle.
To seek my face.
Pour chercher ma face.
To come into my presence.
Pour venir dans ma présence.
To know me.
Pour que tu me connaisses.
To hear from me.
Pour entendre de moi.
So I can direct you.
Afin que je puisse te diriger.
And if it takes fasting.
Et si cela doit prendre le jeûne.
Pushing away.
Alors tu mets de côté.
The things of the flesh.
Les choses de la chair.
So you can go higher.
Afin que tu puisses aller plus haut.
In the things of God.
Dans les choses de Dieu.
Are you willing?
Est-ce que tu le veux?
Will you give it up?
Est-ce que tu vas abandonner?
So you can see me.
Afin que tu puisses me voir.
In what I want you to do.
Dans ce que je veux que tu fasses.
So it's not about how much fasting.
Donc ce n'est pas comment, combien
how
de temps
many days?
Il faut jeûner, combien de jours?
How long?
Combien de temps?
The message this
le
morning.
Le message de ce matin.
Will you?
Est-ce que tu vas
give up?
Abandonner
what pleases your flesh?
Ce qui plaît à ta chair?
To please me?
Pour me plaire à moi?
So that you
afin que tu
can do a work?
Puisse faire un travail
for me
pour
in
moi
France.
En France?
You understand?
Est-ce que vous comprenez?
That's what God is saying
ce
to you
que Dieu
today.
Vous dit aujourd'hui.
That's what God is saying to
c'est
you.
C'est ce que Dieu vous
today.
Dit aujourd'hui.
Fasting.
Jeûner.
Yes.
Oui.
It disciplines.
Discipline.
It cleanses your body.
Cela sanctifie ton corps.
It cleanses your mind.
Cela sanctifie ton esprit.
There are many benefits.
Il y a beaucoup de bénéfices.
You can lose weight.
Que tu peux perdre.
That's not what God is saying.
Ce n'est pas ce que Dieu dit. Tu peux,
He's
tu
saying,
peux
will
poids,
you give up
ce que Dieu dit,
what
ce,
pleases you
abandonner ce qui te
to please me.
Pour me plaire à moi.
That's what He's saying
c'est
this morning.
Si,
That's
ce
a word
dit,
for you today.
C'est la parole pour vous aujourd'hui. Amen. Oui.
Je bénis le Seigneur pour vous, parce que vous nous éclairez beaucoup. C'est à propos de la femme. L'apôtre Paul a dit que la femme n'enseigne pas. Apparemment, c'est une exhortation et qui a été faite doctrine. Je vous pose la question parce que nous sommes beaucoup de femmes venant de plusieurs églises, plusieurs dénominations. Et quand on, par exemple, depuis que je suis là, depuis quelques jours, je ne vous connais pas, quand vous prêchez, vous confirmez certains enseignements que le Seigneur me donne. Alors, moi j'ai grandi dans une certaine dénomination. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces devenues doctrines dans certaines dénominations. Ouais. Parce que tout ce que vous dites m'éclaire et me confirme certains enseignements du Seigneur. Et ça fait des débats dans plusieurs milieux. Ceux qui disent la femme ne doit pas enseigner, d'autres qui disent la femme doit enseigner. Quand on regarde dans la Bible, Jésus n'a pas dit que la femme n'enseigne pas. Et il n'y a que dans Corinthe, l'épître aux Corinthiens, qu'on trouve ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous exhorter là-dessus ou nous conseiller là-dessus, nous les femmes? Parce que vraiment, on
D'accord.
est un peu perdus.
D'accord. Ah, c'est une question, ça. Ici, en France, c'est le débat. En France, déjà, on aime débattre. C'est une culture de débat.